Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. On est parti pour un nouveau week-end de folie. Si vous êtes déjà en vacances, profitez bien. Si vous êtes sur la route, faites très attention à vous, évidemment. On vous accompagne toute la matinée au sommaire. Aujourd'hui, la crise à l'OM. Une semaine sous haute tension entre De Zerbi et ses joueurs. Les colères, les piques du coach italien n'ont pas du tout plu aux joueurs. Son management est-il catastrophique? On vous donnera toutes les dernières informations dans quelques instants. À 10h, une autre crise. Celle des droits télé, une crise entre la LFP et le diffuseur DAZN qui menacerait de quitter le navire. Le divorce est-il acté? Ce sera notre question. Ce sera le bras de fer des GG. Puis 11h, deuxième acte ce week-end du duel formidable entre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. 1-0 pour le Néerlandais avant le Tour des Flandres demain dimanche. Qui a l'avantage psychologique? Il va falloir répondre à cette question. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Elles sont en forme, évidemment. Enfin, on va le vérifier. Ouais. Une grande gueule qui, comme Marine Le Pen, dès que c'est contre lui, il crie à l'injustice. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Compare à Marine Le Pen.
Bah, sur l'injustice, oui.
Sur l'injustice.
Hein. Bah oui.
Ouais, non.
Dès que t'es pas choisi pour les contre-attaques, dès que tu dis que c'est un complot, que les juges sont contre toi, on te connaît, mon cher Christophe, ça
pas
va?
Pas du tout. Je ne crie jamais à l'injustice. Je vis dans un monde où tout le monde s'aime. Oh. Les grandes gueules s'adorent,
oh
évidemment.
Oh. Oh. Hein.
Il n'y a pas d'injustice à part être moins beau que Denis Charvet quand même.
Ouais. On va présenter dans quelques instants. Fais-moi confiance, ça va mon Chris?
Oh, écoute.
Dans deux semaines, c'est la quille. Hein.
Ouais, c'est pour ça. Là, je fais la tournée des Grands Ducs en ce moment. Je fais une fête par semaine.
Voilà.
Et donc voilà, je suis en pleine forme.
Sachez que dans deux semaines, Christophe a 60 ans. Voilà, c'est le 19 avril. Manquez pas ce jour. Important.
Les deux compères d'ici ont largement dépassé les 60 ans. Hein.
Oui.
Je tiens à le préciser, je suis le plus jeune.
Mais à partir d'un moment, on compte plus. À partir de 60 ans, on compte plus.
Exactement.
Une grande gueule qui, comme Marine Le Pen, c'est comme son pote Bernard. Il est innocent.
Mon beau-frère, il est innocent.
Denis Charvet, salut Denis.
Je suis innocent.
Et Bernard, il est innocent aussi?
Oui. Avec quoi? Présumé.
Présumé, comme d'habitude.
Présumé. Mais oui, mais ça existe quand même.
Ça existe
quand même.
Oui. Oh, il passe en décembre.
En décembre.
J'ai dîné avec Serge Simon l'autre jour. Exceptionnel.
Il est Serge aussi?
Oui. Ils y sont.
Ok, tout va bien sinon,
on l'embrasse,
Denis.
Bernard.
On les embrasse.
Les Bernard. Les copains.
C'est pour Adrien Aiguin.
Oui, c'est Bernard.
Pierre Morian, il aime pas ça.
Oui.
Bon.
Tu me dis pas si ça va? Oui, ça va.
Ça va très bien, je suis en grande forme. Ouais.
Ok.
Ouais, je pense qu'on va faire une bonne émission.
Ah oui, il y a le très très bon sujet, je suis d'accord. Une grande gueule qui, comme Marine Le Pen, il n'arrête pas de charger. Bon, elle, c'est les juges, lui, c'est ses coureurs. Marc Madiot,
très très mal. Quelle honte.
Même moi, en le disant, je me suis dit, quel rond, tu vois.
Ouais.
Voilà. Ça va, Marc?
Pas mal.
T'étais chaud avant le Tour des Flandres, là?
Écoute, non, je suis tranquille.
Ah.
Oui, la force tranquille.
Serein, apaisé. Tu seras demain?
Oui, je prends la route tout à l'heure.
Ok. Bon, parfait. Allez, la Groupama FDJ, évidemment.
Et...
allez, Valentin Madouas, notamment.
Madouas, Kung...
Allez, parce qu'on parle des deux grands là, mais vous allez les battre évidemment demain.
Une bouchée.
Et puis une
bouchée
grande
dans la boucherie.
Et puis une grande gueule qui, comme Marine Le Pen, il a siphonné les verres. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour Christophe.
Tu as été chercher tout ça.
De siphonner.
Il te prête du ivrogne, c'est tout.
Écoute, ils étaient exsangues, j'ai failli réussir, c'est tout ce qui compte.
Attends, moi, je parlais pas de Saint-Etienne.
Ah, des verres.
Oui, moi je parlais VE2RES.
Oui, c'est ça, je te disais.
Alors là, tu pourras pas me prendre à ce niveau-là parce que je ne bois que très rarement.
Ça, c'est vrai, mon cher Pascal.
Voilà. C'est dans le rarement.
Ouais. Une fête de temps en temps, s'il y a Christophe Cessieux.
Moi, je ne bois de l'eau que très rarement.
Je
moi, c'est
pense que ça pourrait être. Comment dire? Je pourrais rompre avec le jeune, peut-être.
Vous avez tous compris que je parlais des verres VERTS quand même.
Oui, c'est sûr, Jean-Christophe. Toujours est-il que ça me fait plaisir d'être là parce qu'il y a de l'expérience ce matin.
Ah oui,
donc ça va taper.
C'est moi qu'on puisse dire.
Ouais.
On peut dire ça plus, moins poliment.
Tu veux dire
qu'il y a que des vieux.
Il y a de l'âge, je crois.
C'est ce que vous voulez dire. De l'expérience.
Franchement, à vous quatre. C'est presque 200 ans,
c'est
à mon avis.
Des vieilles baguettes,
mais même plus de 200 ans. Hein, c'est
moi,
magnifique.
Je suis très jeune dans ma tête, donc tout va bien.
Ok. Ouais. Alors, c'est l'événement sur RMC cette semaine. Vous allez pouvoir remporter vos places pour le quart de finale de la Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Aston Villa. C'est le 9 avril prochain, mercredi à 21h au Parc des Princes. On vous propose, vous le savez maintenant, de vivre l'expérience RMC. Avant le match, vous assistez aux émissions d'RMC direction le Parc des Princes pour assister à la rencontre avec la personne de votre choix. Et enfin, vous revenez à RMC pour les coulisses de l'after, pour le débrief du match. dès que vous entendrez ceci. Vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Soyez vigilants, ça tombera. Et peut-être à plusieurs reprises dans cette émission, vos places PSG Aston Villa se gagnent uniquement sur RMC. Avant de parler de l'Olympique de Marseille, le point chaud, ça se passe au Japon pour le Grand Prix, troisième Grand Prix de la saison. Et Max Verstappen qui incroyable, a doublé incroyable. Tout le monde sur le fil. Bonjour Jean-Luc Roy.
Oui, salut JC, bonjour à tous.
Première pole de la saison pour Max Verstappen.
Bah écoute, c'est incroyable, il est vraiment au-dessus du lot là. Je crois que c'est incontestable. 12 petits millièmes seulement d'avance sur la McLaren de Norris et 44 millièmes sur celle de Piastri. C'est dire que vraiment les deux hommes en orange pensaient vraiment avoir la main. Et puis là, le dernier tour, absolument fabuleux. Alors c'est quand même la 41e pole de sa carrière de pilote de Formule 1. C'est la première qu'il décroche après le Grand Prix d'Autriche. Vous vous rappelez, c'était l'an dernier, au milieu de la saison, il y a tellement longtemps maintenant qu'on s'en rappelle plus, et c'est vraiment un exploit personnel sur un tracé, je le dis tout le temps, hein, Suzuka, c'est le juge de paix absolu, le tracé sélectif au maximum, celui que tous les pilotes adorent. Donc on va avoir un Grand Prix extraordinaire, hein, parce que je ne sais pas si la Red Bull peut tenir le coup en course comme ça, avec les deux McLaren juste derrière, et puis on a Charles Leclerc qui a signé le quatrième temps avec la première des Ferrari, Russell avec c'est une petite déception pour lui, il a été mieux en essai libre, cinquième avec la Mercedes, avec son équipier Antonelli 6e, Hadjar, le français, fait bien avec la Racing Bull, il est 7e devant Hamilton 8e, Albon 9e et derrière, eh bien, on a Gasly qui est 11e et Ocon 18e, et donc ce sera à suivre demain très tôt, hein, puisque ça part à 7h du matin.
Parfait, et eh bien merci, c'est à 6h du matin le Grand Prix du Japon, évidemment on suivra ça avec toi Jean-Luc Roy, et dans cette émission on reparlera
à 7h.
Très bien. Eh ben alors c'est 7h. Bah ouais. Bravo. C'est toi qui avais raison. merci beaucoup Jean-Luc Roy. On te retrouvera évidemment pour ce Grand Prix. On reparlera d'Hadjar, de Verstappen un peu plus tard. Ce sera dans le zapping des GG. Allez, on débute cette émission avec cette citation de Gustave Le Bon qui a dit un jour « La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. »
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Vous venez d'être promu en tant que manager et vous vous demandez quelles sont les choses que vous devriez mettre en place pour bien prendre vos fonctions auprès de votre équipe.
Mais t'es pas capable de faire 35 secondes au slalom.
Ces premiers temps de votre prise de fonction sont absolument cruciaux car ils vont marquer cet effet de première impression que vous allez laisser.
23-0 !
Organisez rapidement un temps d'échange individuel avec chacun de vos collaborateurs directs.
Tu sais pas jouer, Jack ! T'es mauvais!
Prenez un temps d'observation et d'analyse.
T'es mauvais!
Ayez conscience que votre rôle premier en tant que manager, c'est de faire grandir votre équipe.
Corruption dans des championnats de merde! Des championnats, c'est corrompt! Des championnats, c'est corrompt!
À cette journée de la fin, en pleine course pour la Ligue des Champions, l'OM se paie une crise avec peut-être une fracture entre l'entraîneur Roberto De Zerbi et ses joueurs. Le coach italien, passablement agacé par la défaite samedi dernier à Reims, l'a fait payer à ses hommes cette semaine. Des jours de repos supprimés, des mots durs, des vexations, des pics, un management à l'émotion. Roberto De Zerbi a même refusé d'entraîner son équipe lundi. Bref. Vous l'aurez compris, la tension est grande avant de recevoir Toulouse au Stade Vélodrome dimanche soir. Avant de vous donner toutes les dernières informations, la musique qui fout les jetons et cette question. Le management de Roberto De Zerbi est-il catastrophique ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Moi, je pense qu'il est dépassé.
Marc Madiot.
Moi, je pense que oui, il est catastrophique tout simplement pour une seule raison, parce qu'il a refusé d'entraîner ses joueurs. C'est catastrophique.
Ok. Denis Charvet.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
Ok, les GG ne sont pas d'accord.
Je sens que Pascal, c'est un petit nom.
Non, mais Pascal,
c'est un petit nom.
Joueurs le matin.
Alors, c'est le poids de l'expérience, messieurs. Vous êtes des jeunes, vous.
Avant d'écouter Pascal Duprat et vous, les GG, on va retrouver notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Bonjour, Florent.
Salut JC, salut les GG, salut à tous.
Alors, l'entraîneur de l'OM qui a tenté de déminer cette crise hier en conférence de presse.
Oui, on peut même le mettre au pluriel. Ils ont cherché à calmer le jeu. On va commencer par les joueurs et Neil Maupay, l'attaquant, qui promet que l'idée de ne pas s'entraîner le lundi n'a pas effleuré l'esprit des joueurs.
Pas du tout, parce que en fait, il a jamais été question de pas s'entraîner. J'ai pas du tout pensé à Naïsna, le bus, la lettre. Non, on a mis les choses au clair comme on se doit de le faire. Je suis sûr que ça va nous servir.
Alors, ce qu'on peut confirmer, c'est que Roberto De Zerbi s'est mis en retrait des séances lundi, mardi et mercredi, après le week-end particulier. On en a parlé la nuit passée, le samedi à la Commanderie. Il a laissé son staff animer les séances, qu'il préparait lui tout de même. Mehdi Benatia, Pablo Longoria et les dirigeants avaient d'ailleurs été prévenus par Roberto De Zerbi précédemment, le week-end, qu'il allait quelque part employer cette stratégie pour piquer son groupe et susciter une réaction. Les dirigeants ont justifié ce management auprès des joueurs en disant que De Zerbi est comme ça, passionné, à fleur de peau. En tout cas, Neil Maupay a bien saisi le personnage De Zerbi.
Non, il n'y a pas de cassure entre le coach et nous. Au contraire, je pense que c'est dans les moments comme ça qu'on peut en sortir tous grandis et encore plus proches. On est venu ici en connaissant le coach. Il est tellement passionné, il a tellement à cœur de mener à bien son projet et notre projet que après des mauvaises performances, des fois il y a des choses à régler. Je pense que c'est dans toutes les familles, en tous les couples, des fois il faut savoir se dire les choses. Mais on est tous avec lui parce qu'on sait que si on veut bien finir le championnat, on a besoin de lui et on a besoin de tout le monde.
En tout cas, Roberto De Zerbi aime quand c'est chaud, visiblement, et il l'a fait savoir d'entrée en français en plus dès le début de la conférence de presse.
Aujourd'hui, je suis très heureux d'être l'entraîneur de la Marseille parce que j'adore les polémiques.
Et cette polémique, faut la résumer, une fronde des joueurs de l'ensemble du vestiaire contre Roberto De Zerbi, non, c'est pas le cas. Il a encore de nombreux leaders derrière lui, il en a cité d'ailleurs certains en conf de presse, donc il a été assez cash. Par contre, une cassure avec certains qui commencent à être lassés du management un peu caractériel de De Zerbi, ça oui, il prend le bâton, il durcit le ton de temps en temps, et Roberto De Zerbi assume cette méthode.
Non, era una punizione, io non...
Non, ce n'était pas une punition. Moi, je ne punis même pas mes enfants, vous savez. Je leur laisse une liberté totale. Mais un entraîneur doit savoir quand c'est le moment d'embrasser ses joueurs et quand c'est le moment d'être un père de famille un peu plus dur. Je veux transmettre cet état d'esprit, cette exigence aux joueurs. Et si pendant la saison, j'en perds quelques-uns parce qu'ils n'aiment pas mon caractère ou ma méthode, ça ne me fait pas peur. Mais je ne suis pas un criminel ou un délinquant.
Non, je ne suis pas un criminel.
Ah, les mots sont forts, peut-être exagérés. Ainsi va De Zerbi qui promet, entre parenthèses, ne pas être en contact avec l'AC Milan, promet aimer cette ambiance marseillaise au point de vouloir rester 3, 4, 5 ans, car il n'est sûrement pas le meilleur entraîneur de l'OM, le meilleur entraîneur, mais l'OM est le meilleur club pour lui, tout en sachant que si Marseille perd demain, tout sera remis en cause.
Le management à l'émotion, donc le caractère de De Zerbi, on va en parler dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup Florent Germain, tu restes avec nous pour ce débat, hein, parce que forcément tes informations sont précieuses pour décrypter un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Évidemment, supporters marseillais, le 32-16 pour réagir à notre débat. Le management de Roberto De Zerbi est-il catastrophique? Je vais te voir, Marc, tout d'abord, parce que toi, ce qui ne passe pas, c'est de ne pas entraîner son équipe le lundi.
Bah oui, alors on sent à travers les propos qui ont été tenus, c'est plutôt tout à fait aussi vrai. Donc si on en est
les joueurs ont le droit de donner leur version, qui n'est pas forcément la réalité.
Si la vraie version est « je refuse d'entraîner mes joueurs », c'est catastrophique.
Mais c'est pas le cas d'ailleurs.
Mais si c'est pas le cas, on est obligé de
nuancer. Je vais pas vous entraîner aujourd'hui. Et les joueurs ne l'ont pas apprécié. N'ont pas apprécié. Je parle sous couvert de Florent Germain.
Flo est là.
Très clair. Il a préparé les séances. Lundi, mardi, mercredi, il s'est mis en retrait du groupe.
Donc il n'a pas mené les séances.
Non, il a laissé son staff le faire. Après, attention.
C'est pas pareil.
Attention, tu peux pas. Ils sont une douzaine. Le staff.
Tu ne peux pas être avec tes joueurs quand ça va bien et quand ça va mal, dire je me mets en retrait, je vous laisse vous entraîner.
Mais si, mais non, en retrait, là. Il était là, mais à distance.
Non.
C'est pour les piquer.
Il a piqué. Il créerait autrement.
Ah ben ça c'est différent. Ça c'est ton choix.
Il autrement, il ferait des tours de terrain.
C'est
la méthode Giroud, ça.
Oui, mais elle marchait encore, la méthode Giroud, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que ça va pas, ça fonctionne pas en compétition, ça fonctionne pas au match. D'abord, tu es au bord du terrain, tu es en permanence au bord du terrain, tu es en permanence avec tes joueurs, et ensuite tu rajoutes des séances parce qu'on n'est pas au top, c'est tout.
Sur ça, je suis d'accord avec toi.
Bah oui.
Je suis d'accord avec toi, mais après.
Mais si tu commences à dire que tu manques d'autorité.
Ouais, mais si t'es mort.
Ouais, t'es mort.
Si tu te manques d'autorité, t'es mort. Dans ce job-là, tu le connais, puis c'est ton job. Il faut de l'autorité quand même. Moi, je sais pas, moi, après.
L'autorité, il faut la mettre quand c'est l'heure de la mettre.
Ah, ben, la performance,
mais là, ils ont fait. T'es en situation casta, et tu dis, je me mets en retrait.
Moi, je suis désolé, je trouve que les joueurs sont des enfants gâtés. La sortie de Rabiot, elle me plaît pas. Parce que pour avoir vécu des crises dans mon sport en interne, parce qu'évidemment, quand un sport collectif, on en vit tous, c'est toujours la en famille, c'est jamais sorti des vestiaires, et la sortie de Rabiot, pourquoi elle me plaît pas, ça allume le feu, voilà, tout simplement. Et après De Zerbi, il reprend les rênes et puis il tape sur la table. Les joueurs sont quand même responsables, à mon nez, moi j'en ai marre, quoi. C'est des enfants gâtés. Moi, je sais pas, moi. C'est inadmissible que des joueurs qui sont concernés pour la Coupe d'Europe, pour aller faire la Champions League l'année prochaine, perdent 3-1. Alors, je dis pas que l'entraîneur.
C'est le football. C'est le sport de haut niveau.
Non, ouais, c'est l'attitude, Pascal, que ce football. Oui. Non, il y a l'attitude des joueurs.
On a le droit, évidemment, de pointer l'attitude des joueurs, mais quand un coach dit, et c'est pour ça que c'est intéressant ce débat avec vous qui dirigez des équipes, vous voulez me faire échouer, alors on va échouer tous ensemble.
Non, mais c'est enfin, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça.
En fait, c'est sa méthode.
Pascal Giroud a dit ça une seule fois. Jamais. Pascal Duprat l'a dit. Jamais non plus. Peut-être.
J'aimerais simplement, je vais donner
Pascal
un avis.
Pascal aurait dit quoi, toi?
Non, mais après c'est pas mon truc.
T'es entraîneur de foot, Pascal.
Non mais de taper tout le temps. Non mais laisse-moi, laisse-moi finir, Marc. Laisse-moi finir, Marc. Tu m'as pas laissé commencer. J'aimerais dire plusieurs choses. Ce que tu as dit tout à l'heure, je souscris pas. Parce que s'il suffisait de faire tourner les joueurs, multiplier les séances, si ça se trouve en ce moment, l'effectif de l'Olympique de Marseille est fatigué, moralement peut-être. Nerveusement peut-être, parce que c'est dur. C'est peut-être donc du repos qu'il faut. Moi, ce que je trouve,
du repos,
je trouve qu'il est prématuré.
Attends, on s'arrête deux secondes sur le calendrier. Tu peux pas dire que les joueurs de l'OM sont fatigués, ils sont éliminés en Coupe de France, ils n'étaient pas en Coupe d'Europe,
et
tu viens nous dire qu'ils sont fatigués.
Non, pour autant, nous arrivons dans le dernier tiers du championnat. Ok, le dernier quart du championnat, pardon. Et pour autant, il y a de la fatigue nerveuse. Donc, de multiplier les séances, c'est peut-être pas la bonne solution. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est prématuré et injuste de dire que le management de De Zerbi est catastrophique. Et je vais étayer. Prématuré, pourquoi? On verra après le match de Monaco, une fois qu'ils auront joué Toulouse et une fois qu'ils auront joué Monaco, on verra si ce management peut être décrit comme un management catastrophique. Pas avant, ok. S'il venait à gagner les deux matchs, tout le monde
applaudirait,
tout le monde dirait bravo. Non, et après, la deuxième chose, pardon, c'est injuste parce que on n'en a pas la teneur. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, comme c'est dans l'air du temps aujourd'hui, au 21e siècle, dans le football professionnel, tu dis quelque chose en interne, eh bien, tu as toujours quelqu'un pour répéter les choses et surtout les déformer. Pourquoi déformer? Dans l'équipe, hier, on me parle d'une mutinerie qui a été évitée de justesse. Et aujourd'hui, après la conférence de presse de De Zerbi, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait la même ambiance. Deux salles, deux ambiances. Ok. Donc, c'est injuste que de considérer son management aujourd'hui, ou ne serait-ce que de poser la question, le management de De Zerbi est-elle catastrophique? Et en dernier lieu, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas avec eux. Nous n'avons pas le pouls de l'équipe. Nous ne sommes pas en permanence avec les joueurs. Nous ne sommes pas en entretien individuel avec eux. Nous ne connaissons pas les problématiques. Nous ne connaissons pas les inimitiés qu'il peut y avoir entre les joueurs. On ne connaît rien.
Mais on parle pour autant
et on juge.
Ouais, tu sais que
laissez-nous, par exemple, si on était toute l'année en observateur, alors que nous sommes tous des passionnés de sport et des managers dans l'âme, si on était avec De Zerbi tous les jours à ses côtés, alors là, on pourrait peut-être mettre un avis sur la manière dont il manage.
Mais Pascal, t'es bien gentil, mais à ce moment-là, on fait plus d'émissions, on fait plus de débats.
Ouais, si on peut plus s'engueuler.
Bien sûr qu'on fait le débat.
Ah ben là, tu vas plus avoir beaucoup de sous, tu vas plus beaucoup faire de débats. Hein. Je te le dis.
Mais pourquoi, Pascal, il ne repose sur aucun fondement solide. Parce que d'un jour sur l'autre,
Pascal, le travail des journalistes, c'est pas du fondement solide. C'est ça que tu dis. Il faut être dans le groupe pour comprendre. Les autres
vont pas comprendre.
essayer de comprendre.
Non, mais c'est, Florent, parce que vous, on sort.
Non, mais Pascal, Pascal, tu as un axe qu'il faut préciser.
C'est que je vous laisse parler. Flo Germain.
Ce qu'il faut préciser, c'est que Roberto De Zerbi, il assume totalement ce management vraiment à fleur de peau caractérielle. Donc, effectivement, parfois, dans le secret des vestiaires, il se passe des choses pour lesquelles peut-être on n'a pas tous les éléments. Ça, je te suis à 100%, mais c'est l'histoire du football et ce sera toujours ainsi et ça nous empêchera pas de sortir de
des
émissions. Mais Pascal, c'est vraiment quelque chose d'assumé en interne. Ça a été répété lors de cette réunion qui était plus finalement une réunion entre Benatia et les joueurs où ils ont vidé leur sac, où ils ont aussi parlé des méthodes du coach. Mais le discours, ça a été, les gars, on a un entraîneur qui est spécial, qui vit les choses avec passion, qui est capable de coups d'éclat. Donc en fait, ces coups d'éclat-là, ils sont tellement vrais qu'ils sont confirmés par l'entraîneur et les dirigeants eux-mêmes. Après, effectivement, on n'a peut-être pas tous les détails, mais cette méthode-là,
ne
elle est quand même...
Ne penses-tu pas que ces coups d'éclat, c'est dans tous les vestiaires de tous les sports professionnels du monde.
Des fois ça sort, des fois ça sort pas, c'est comme ça.
Les copains.
De Zerbi, il n'a rien d'exceptionnel en agissant comme ceci. Il fait comme tout le monde.
Restez avec nous, parce que Christophe Cessieux va vous rentrer dedans un petit peu, Pascal et Denis Charvet, dans quelques instants.
On continue la saison.
De parler du management de Roberto De Zerbi avec toute la bande. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h34, le retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Marc Madiot, Pascal Duprat, Florent Germain en direct de Marseille. On continue de parler de l'OM, le management de Roberto De Zerbi est-il catastrophique? C'est notre question. Sachez qu'à partir de 10h, une autre crise, celle des droits télé, encore, entre la LFP et DAZN. On va tout vous expliquer, on va vous donner également nos dernières informations sur RMC. Vous pouvez aller consulter tout ça sur rmcsport.fr. Mais donc l'Olympique de Marseille. Christophe Cessieux, tu n'as pas encore pris la parole. Pour toi, est-ce que c'est catastrophique? Tu disais non, c'est dépassé.
Alors oui et non, c'est pas catastrophique. Pour voir si c'est catastrophique, on verra si
la
c'est une réaction ou s'il y a vraiment une mutinerie.
Même avant la
et si l'effectif lâche son entraîneur. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On verra avec les résultats de ce week-end et de celui d'après. Mais je pense que ce management-là est un peu dépassé. Alors, je vais faire un comparatif avec ce qui se passe aujourd'hui dans une branche que je connais, c'est-à-dire les médias. Aujourd'hui, tu manages pas du tout de la même manière que tu manageais il y a 20 ans, notamment avec la jeune génération qui a beaucoup de mal à supporter les vexations, qui a beaucoup de mal à supporter qu'on l'insulte, qu'on dise que par exemple le capitaine, il a pas de vous avez compris, de
Coronès, tu peux le dire,
Coronès, l'espagnol, les privés, les empêcher de fêter la fin de l'Aïd pour certains, les mettre au vert alors qu'ils rentrent de match. Est-ce que toutes ces vexations aujourd'hui sont gérables par des jeunes générations? Je pense qu'elles ne supportent plus.
Oui, mais là,
aujourd'hui, aujourd'hui dans les rédactions, moi quand j'ai commencé, tu t'amenais ton sujet rédacteur en chef, si c'était pourri, t'envoyais la cassette au milieu de la rédaction et tu passais pour un imbécile auprès de tout le monde. Aujourd'hui, si tu fais ça, tu es accusé de harcèlement moral et tu vas
ouais,
tu
risques ça veut dire qu'il y a pas d'autorité, il y a plus d'autorité au-dessus.
Le problème, c'est que tu gères plus la jeune génération comme nous a géré nous quand on était jeunes. Et je pense que ça s'applique aussi au sport de haut niveau. Voilà.
Juste Marc là-dessus, sur est-ce que tu as perçu, toi, des coureurs il y a 20 ans, aujourd'hui, tu ne peux plus les gérer de la même façon. Et les pics, les vexations, ça ne marche pas.
La population de sportifs que l'on a sous nos directions est totalement différente.
Peu importe.
Depuis 20 ou 30 ans, c'est évident.
Tu as remarqué ça.
Et moi, j'ai été coureur il y a une quarantaine d'années, donc j'avais un autre management au-dessus de ma tête qui était totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui.
Et tu peux plus être dur comme c'était
le cas. Alors il y a quelque part il y a aussi un espèce de retour aux sources. C'est-à-dire que ça dépend en fait de ta population de coureurs et du niveau de compétitivité que vont avoir tes coureurs. Les meilleurs coureurs aujourd'hui, sont de plus en plus exigeants avec les attentes qu'ils ont envers l'équipe, mais également avec eux-mêmes. Moi, j'ai des coureurs qui, c'est pas de l'autoflagellation, mais ouais, qui sont exigeants.
L'exigeant, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu les incites à dire, feignasse, avance un peu
je
là.
Je n'ai jamais utilisé ces propos.
Mais c'est pas un sort de management, tout simplement.
C'est tout.
C'est pas une autorité là.
Après, il y a des limites à tout. Si tu as en face de toi un sportif qui est respectueux et qui écoute et qui débat et qui discute, même s'il n'est pas d'accord avec toi, j'ai envie de te dire, c'est dans la
logique et la normalité des choses. Si par contre tu as affaire à un imbécile qui se fout de ta gueule en face, là tu peux changer de note.
Ok, Pascal Duprat.
Ouais, je suis pas d'accord avec Christophe parce qu'en fait, le management d'Ozerbi, pour le coup, il est certes court-termiste. Ça, tu peux pas être tout le temps comme ça. Sur ce même mode-là, c'est pas possible. Or là, ça tombe bien. Ils sont à la fin du championnat. Il faut les résultats pour confirmer, comment dire, la participation à la Ligue des Champions. Donc, oui, les générations, là où je rejoins Christophe, là où je rejoins Marc, c'est que les générations ont changé. On ne manage pas aujourd'hui comme on manageait naguère. Le tout, pour ma part, ce que je considère, c'est là, il faut être juste. Il ne faut pas être vexatoire devant tout le monde. Okay, quand vous avez quelque chose à dire de véhément à un joueur de football, il faut lui dire en tête à tête. De manière à ce que les autres joueurs comprennent que le joueur qui est fautif ou le joueur qui déborde, le joueur qui déconne, se fait reprendre de volée pour pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Mais le vexer devant tout le monde, ça ne mène à rien. Parce que les joueurs, faut pas considérer que les joueurs modernes, il faut pas considérer que les joueurs modernes sont, sous prétexte qu'ils ont changé, sont stupides. Ils sont pas stupides, les sportifs professionnels aujourd'hui. Ils sont tous sauf stupides. Ils ont une manière d'intégrer les choses qui est différente de celle que nous avions à nos époques.
Mais non, mais ce sont les mêmes.
Moi, j'en veux pour preuve. Mais... quand vous rentrez dans le bus à la fin d'un match pour rejoindre l'aéroport, alors que vous venez de perdre, vous avez tout le staff devant qui fait la gueule, parce que, et notamment l'entraîneur, parce qu'il sait que c'est lui qu'on va charger. Et puis derrière, vous avez des joueurs qui sont en train de rigoler, alors qu'ils viennent d'être mauvais. Le problème, c'est qu'ils ont cette capacité à zapper, que nous n'avions pas avant. Avant, on mettait une semaine pour se remettre d'une défaite. Aujourd'hui, une heure après le match, ils ont oublié. Ils sont passés à autre chose. Est-ce bien, est-ce pas bien? C'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, c'est le comportement des jeunes générations. Et Ozerbi, ce qu'il fait, quand je dis que c'est injuste, que aujourd'hui, de le sanctionner, de dire que c'est pas bien, c'est catastrophique, ben, je trouve que c'est trop tôt, c'est prématuré, c'est sa manière de manager, c'est peut-être pas la mienne, c'est pas celle de Marc, c'est pas celle de Denis, c'est pas la tienne, Christophe, si tu es appelé à manager des journalistes, mais c'est la sienne. C'est la sienne parce qu'il a la température de son groupe.
La seule chose, Pascal, et je pense que c'est une réflexion en interne, c'est qu'en allant si loin, parce que tu parles de management court-termiste, en allant si loin, il se met en danger. Et je pense que c'est devenu très clairement ces dernières semaines une réflexion au sein du club. Est-ce qu'un coach comme ça à Marseille peut tenir sur la durée? S'il y a une nouvelle défaite ou imaginons pas de Ligue des Champions, tout va voler en éclats, tout paraît clair. Donc c'est juste que ce management en allant si loin. Il se met en danger, comme tu le dis.
Est-ce que je peux juste ajouter une dernière chose?
Vas-y, après Denis.
On a fait une corrélation entre les présupposées sollicitations de l'AC Milan et le comportement de Ozerbi, parce qu'apparemment, il est approché par l'AC Milan. Bon, c'est mal connaître l'honnêteté de la plupart des entraîneurs. Il a envie de bien faire. S'il agit comme ça de Ozerbi, c'est qu'il est convaincu qu'il a envie de bien faire et que ça va être salutaire pour le groupe.
Et il l'a dit d'ailleurs hier en conférence de presse, mais il a dit autre chose
avec le club
qui va un peu à l'encontre de ce que tu dis, c'est que lui il dit mais de toute façon pourquoi vous croyez que les entraîneurs de l'OM ne durent pas, pourquoi ça dure qu'un an, et il se remet pas forcément en question parce que c'est aussi choquant, par rapport à son tempérament que parfois ça ne dure qu'un an.
C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il a les épaules pour évoluer à Marseille tout simplement?
Non, mais qui a les épaules de rester à Marseille plus d'un an? Mais non, t'es entraîneur de l'OM.
Oui, mais là si tu veux, sa réaction me fait dire qu'il a quand même la pression et que cette pression-là, eh bien, on a l'impression qu'il n'arrive pas à s'en sortir, là, de se défaire de cette pression-là. C'est tout. Alors après, si on parlait des leaders de jeu qui le suivent.
Mais t'as vu quand il dit qu'il aime les polémiques, donc finalement, il se complaît là-dedans.
Oui, mais c'est son caractère, ça, tu ne peux pas lui reprocher son tempérament. Après, c'est surtout la façon de mettre ton autorité au service de tes joueurs. Aujourd'hui, moi, je ne sens pas que ce soit une vraie, véritable autorité.
Et pardon, mais c'est peut-être de l'interprétation, et peut-être que Florent Germain a peut-être des billes à nous donner là-dessus, mais quand un entraîneur, je trouve ça assez rare, commence à énumérer les joueurs qui le soutiennent en disant non, mais moi, il y a Rabiot, il y a Hojbjerg qui me soutiennent et tout ça, je trouve que.
Et ses comptes.
Quand tu fais tes comptes, ça veut dire qu'il y a une grande partie du vestiaire où il sent qu'il y a un début de cassure.
Tout à fait, il y a des tensions.
Mais c'est sûr. Il y a une cassure avec une partie du vestiaire, c'est sûr et certain. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Franchement,
il a cité des noms.
Avec 30 ou 35 joueurs dans son effectif, vous pensez qu'il peut faire l'unanimité? Chaque week-end,
c'est pas ce que dit
quand tu commences à l'énumérer en conférence de presse, c'est qu'il y a un petit problème.
Mais non, est-ce que tu t'expliques?
C'est parce que peut-être qu'il considère injuste le procès qui lui est fait. Tout simplement.
Ok. Il y a Olivier qui nous appelle au 32-16, supporter de l'OM qui veut intervenir. Bonjour Olivier.
Bonjour les grandes gueules du sport.
Merci d'être bonjour. Avec nous. On est ravis de t'accueillir, mon cher Olivier.
T'es bon, dans l'avion
Non, il est dans la voiture avec le
kit
libre,
voilà.
Visiblement.
Ouais, c'est ça.
Le management de Roberto De Zerbi, dis-nous.
À mon avis, hein. C'est mon humble avis, j'ai pas autant d'ancienneté que vous, ni de professionnalisme au niveau, mais pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de donner un supplément d'âme à ses joueurs, c'est quelqu'un qui se met souvent en avant, qui prend sur lui-même et qui prend la faute à son compte, donc pour moi, il essaye de les bouger humainement pour essayer d'avoir un esprit d'équipe et avoir ce petit plus pour pouvoir obtenir ses résultats. C'est aussi simple que ça, il joue sur l'affectif et sur la qualité d'homme et de joueur pour essayer d'avoir un maximum d'unanimité dans son groupe, en fait. Si les joueurs se bougent pas à ce moment-là, il y a un moment, il pourra plus rien faire. Mais là, moi, son management est bon.
Ok, et toi ça te plaît, parfait. Merci Olivier, je coupe un petit peu la liaison parce que le son est pas très très bon et on fait quand même de la radio, ce serait dommage de mal vous entendre. On remercie Florent Germain d'avoir
merci
été avec
nous. Merci les amis.
Merci Flo. Mon cher Flo,
ciao, ciao.
On te retrouvera.
Va me faire 3 tours de terrain, s'il te plaît, Flo.
j'y vais.
On te retrouvera tout le week-end et toutes les informations de Florent Germain sur l'Olympique de Marseille, c'est évidemment à retrouver sur rmcsport.fr et demain en direct du Vélodrome, hein, pour ce Marseille-Toulouse qui va sentir un petit peu la poudre, hein, les grands soirs au Vélodrome où ça peut basculer dans un sens comme dans un autre. Ce sera à suivre demain sur RMC. On revient dans quelques instants pour le On s'en fout, on s'en fout pas. J'ai pas mal d'informations à vous donner. J'ai notamment les qualifications du Grand Prix, hein, du Japon. Sachez que Max Verstappen signe la première pole position de la saison. Il est 9h44, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Marc Madio, Denis Charvet, Christophe Cessieux. Dans un peu plus de 10 minutes, à partir de 10h, une autre crise. On a parlé de l'Olympique de Marseille, la crise des droits télé. Le divorce est-il acté entre la LFP et le diffuseur DAZN? Les GG ne sont pas d'accord. On en parle donc à partir de 10h. 10h45, les GG contre-attaquent. Mais GG, comme tous les samedis, vous nous proposez un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous avez quelques secondes pour nous le vendre. Tiens, Christophe Cessieux, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui?
Ah, moi, je vais vous parler de Wout Van Aert, qui depuis un an connaît des périodes très difficiles. Rappelez-vous, il y a un an, cette chute terrible. Et aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à s'en sortir. La preuve encore cette semaine où il était à 3 contre 1 et il n'a pas réussi à battre ce pauvre Nelson Paoles qui les a bien eu. Mais voilà, moi, je m'inquiète un peu pour vous demander.
Non, il les a pas eu. Hein.
Je sais que c'est le coureur préféré de Marc Madio.
Mais tu vas le provoquer.
Mais en même temps, il devait être bien content que les Vismas fassent bananer comme ça. Hein.
Ok, Marc, tu donneras ton avis si c'est choisi. C'est quoi ton débat, toi? Tu
Je suis aussi sur Van Aert.
C'est ça qu'on aime. Voilà, tenez-vous la main.
Peut-il être l'arbitre du match Pogacar-Van Der Poel?
Ah oui, tu crois encore ça?
Je rêve.
T'es un rêveur, Marc.
Vous avez du Van Aert là avec les copains du vélo. Pascal Duprat, tu veux parler de quoi?
Oui, et ben moi je parle pas de Van Aert, mais je parle d'un Belge pour autant. Donc je parle de Kevin De Bruyne qui vient d'annoncer son départ de City.
Ah oui, flamand.
Après 10 ans de succès. Ouais, c'est un grand joueur, il a 33 ans, il est pressenti du côté de l'Arabie Saoudite, mais j'aimerais vous poser la question, est-ce que le meneur de jeu des Diables Rouges peut encore performer dans un grand club d'Europe? Voilà ma question.
Comme et le
voilà
PSG, le débat quoi.
Que je vous suggère.
Ok, c'est la proposition de Pascal Duprat. Denis Charvet.
Je voudrais vous évoquer la naissance d'une Coupe du Monde des clubs de rugby dès 2028. Mais si je vous dis bien, la naissance, c'est pas fait encore. Hein. Ça avance, mais c'est pas fait. Et il faut bouleverser le calendrier. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On en débat.
Vous voulez faire comme le foot, vous, hein, au rugby?
Ah oui,
vous
non, je
voulais tout faire. Vous arrivez
déjà que c'est très très dur.
Pas faire l'Europe et vous voulez faire le monde.
Voilà, exactement. Tout va bien. Non, je suis pas forcément d'accord.
Il y a les doublons et il y aura les triplons maintenant.
Triplons. Non, mais on marche sur la tête.
On ne connaît pas le nom des clubs. Enfin bon.
Vous pouvez aller voter, c'est dans une heure donc. Vous allez sur le compte X des grandes gueules du sport. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, quelques informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, justement, l'information, tout de même, les qualifs du Grand Prix du Japon ce matin. Avec la victoire de Verstappen, on s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas.
Ok, Marc Madio.
Surtout pas.
Pascal Duprat.
Non, on s'en fout pas.
Denis Charvet. Alors, Max Verstappen, c'était il y a 50 minutes, un peu moins. Max Verstappen a signé le meilleur chrono de la séance de qualification à Suzuka. Le pilote Red Bull a devancé sur le fil les deux McLaren lors du buzzer. Donc, Lando Norris et Oscar Piastri. Sachez que le seul Français à être passé en Q3, c'est Isaac Hadja. Et il partira à la 7e place de la grille. Christophe, pourquoi tu voulais en parler ? Juste vous dire, 12 millièmes d'avance. Max Verstappen, Lando Norris et 44 millièmes sur Oscar Piastri. C'était vraiment une séance de qualification. Non, mais
c'est incroyable. On pensait que les deux McLaren allaient tranquillement s'installer en première ligne et paf, Verstappen est arrivé et bah, il les a bien eus avec 12 millièmes seulement d'avance. Mais moi, je voulais surtout parler de Hadjar, le petit français, qui termine septième temps. Donc c'est-à-dire qu'il est meilleur que Tsunoda, qui était son ancien équipier, qui est passé chez Red Bull.
15e.
Tsunoda
14e.
Donc la logique des choses voudrait que Hadjar devienne le pilote suppléant de Verstappen, enfin le deuxième pilote de la formation Red Bull, dans 5 Grands Prix, soit viré, parce que la façon de gérer là aussi le management de l'équipe Red Bull, c'est catastrophique. Tu mets un jeune pilote, Lawson, tu le laisses 2 Grands Prix, tu le dégage comme un malpropre, tu le rétrogrades et tu vois que ça marche pas non plus. Ils ont plutôt à travailler sur la voiture plutôt que travailler sur l'humain, ces gens de chez Red Bull. Voilà.
Moi, je pense que la voiture est totalement adaptée à Verstappen. Ouais. Verstappen, c'est le talent à l'état brut, c'est la vitesse à l'état pur. Et il est dans son élément et tout est fait pour lui. Ben on voit bien avec le changement de deuxième pilote. À chaque fois, ça se termine de la même façon. Quel que soit le niveau ou le potentiel du deuxième pilote, ça se termine
mal. C'est le début pour lui. Je cherche
surtout pas à prendre la place tout de suite.
Non.
Oui, c'est ce que vous nous dites là. Hadjar, ah oui,
il est très bien là. Aujourd'hui, il est 7e. Imaginez, ouais. Il est dans la Red Bull, il est 7e. Tout le monde s'en fout. On dirait il y a 3 ou 4 dixièmes entre lui, ouais, et Verstappen. Là, il est 7e, il est bon, il est jeune, il arrive, il explose sur le plus haut niveau. Donc, il ne faut surtout pas changer.
Et ne surtout pas souffrir de la comparaison avec Verstappen, si je comprends bien.
Bah, ça dépend quel niveau de carrière tu es. Si tu es dans la deuxième ou la troisième partie de ta carrière, tu peux toujours aller chez Red Bull avec Verstappen. Avec un peu de chance,
il a 20 ans.
C'est tout.
Tout jeune.
Faut pas rêver.
Sachez que Hadjar est devant Lewis Hamilton, 8e sur la grille.
Ouais, mais c'est pas
la
Lewis
Hamilton, ça va être une grille si je pense chez Ferrari.
Ok. Énorme. Pascal Duprat.
Oui, moi je voulais juste souligner, parce que pas passer sous silence, le crash de Jack Doohan hier. Je sais pas si vous avez vu les images.
Ouais.
La violence du choc et il sort indemne.
Franchement, lui, il était déjà en train de faire ses valises.
La sécurité des F1, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Il est peut-être en train de préparer ses valises aussi.
Peut-être, mais ouais. Toujours est-il que
il a un copain du côté de l'Argentine qui veut sa place.
Il y a déjà qui peut faire ses valises. Parce qu'il y a un avec un choc pareil, il faisait sa valise, il finissait dans une casse en bois.
Dans une valise.
Ouais, c'est ça, dans une casse en bois. Franchement, la sécurité, parce que la violence du choc, c'est incroyable.
Incroyable les images. Ouais.
Et évidemment, ce Grand Prix du Japon nous fait à chaque fois penser à Jules Bianchi, notre Jules Bianchi.
Et moi, je pensais à une autre époque. C'était Prost et Senna. On se levait tôt le matin pour être absolument devant les images du Grand Prix du Japon avec Prost et Senna.
Oui, mais
c'était jouait le titre mondial.
C'était le dernier Grand Prix de la saison.
Oui,
ouais,
c'est le dernier.
Sachez que demain, c'est à 7h du matin. Ça finit donc aux alentours de 9h et nous, ça tombe bien. On prend l'antenne à partir de 9h demain matin dans les grandes gueules du sport. Donc, on vous parlera de ce Grand Prix du Japon. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est la très mauvaise affaire de Nice, et vous savez que nous avons un Niçois avec nous, donc je vais lui demander si ça l'intéresse, l'OGC Nice, la Ligue 1, peut-être la Ligue des Champions.
Il y avait un match à Nice ?
Et oui, Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Non ! Oh là 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 là. Dès que ça perd, tu t'en fous, c'est ça ?
Alors, moi, je m'en supporter. Fous. Moi, je ne m'en fous pas parce que Nantes a gagné.
Ok, Pascal Duprat.
Il est né maintenant, il est supporter. Le tango est supporter des Canaries.
Je m'en fous pas parce que mon ami Antoine Camboiré a gagné.
Voilà.
Et bientôt sauvé pour
Antoine, mais alors franchement
très mauvaise opération du gym donc dans cette course à la Ligue des Champions. Les Aiglons se sont donc inclinés à domicile face à Nantes 2-1 et enchaînent un quatrième match sans victoire en Ligue 1. Comme quoi, peut-être que le propriétaire Radcliffe, qui voulait pas aller voir Nice, avait peut-être un peu raison. Nice reste quatrième.
Mais non, c'est depuis qu'il a dit ça que ça paraissait.
Ça c'est vrai. Nice reste quatrième à 2 points de l'OM, 3e donc, et 3 points de Monaco qui est 2e, mais avec un match en plus désormais pour les Niçois. Oui, Pascal, rapidement sur ce sujet.
Oui, j'allais dire Antoine qui m'a
encore réussir son pari. Et Antoine qui mériterait d'avoir un club un peu plus huppé, viser de meilleures places au classement. Donc ça c'est aussi la bonne pioche d'Anthony Lopez qui a fait un super match hier et qui permet notamment aux Nantais de repartir avec la victoire.
Ouais, il faut dire qu'Anthony Lopez a fait plusieurs arrêts incroyables. C'est pour ça qu'aussi le score est de 2-1 contre.
Et ça montre aussi que Antoine Camboire a failli partir hein, et être éjecté. Ah, et, quand on garde un entraîneur, et ben parfois
souvent,
il peut aussi avoir un bon résultat.
Tu t'appelles Antoine Camboire, oui. Que tu risques de partir, mais que finalement tu restes.
Ok, bon, vous voulez parler de Nantes plutôt que de Nice. De toute façon, le Niçois a refusé l'obstacle. C'est l'alerte. Ligue des Champions, c'est le moment pour vous de vivre l'expérience RMC et de gagner vos places pour Paris Saint-Germain Aston Villa. C'est mercredi prochain, le 9 avril à 21h. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. L'expérience RMC, c'est l'avant-match ici sur RMC dans les studios. Le match au Parc des Princes avec la personne de votre choix et ensuite vous débriefez avec toute la bande de l'after. Bref, participez et bonne chance à tous. PSG, Aston Villa, c'est la semaine prochaine, dans quelques jours. Il est 9h56, on se retrouve dans quelques instants. La crise des droits de télé, à tout de suite sur RMC. On a plein d'informations et de choses à vous faire écouter. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.